Avant que je commence, je vais juste vous montrer l'extrait de ce document-là. Donc, il s'agit en fait d'une probablement une représentation que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est dans la synagogue de Doura Europos, une des premières, la plus ancienne représentation du livre d'Esther. On voit ici Mardoché sur son cheval, le roi, en arrière-plan Esther. Voilà, donc comme, peut-être que cette image vous intriguait. Oui. C'est la synagogue de Doura Europos en Syrie du Nord. Voilà. Voilà. Nous allons examiner ensemble aujourd'hui, en fait, une section assez centrale du livre d'Esther et un peu énigmatique. Qui figure au quatrième chapitre. On va d'abord examiner en détail la version hébraïque du passage, et puis dans un dernier temps, juste un peu à la fin, je vous montrerai la version du texte alpha, auquel j'avais fait allusion la première fois, pour vous montrer un peu comment la façon dont ces deux textes se présentent et les différences qu'on y trouve. Voilà. Alors, pour ce chapitre 4, je vais vous rappeler d'abord brièvement le contexte littéraire de ces deux chapitres. Donc, ce sont deux chapitres qui mettent en place, vous souvenez, on a deux chapitres au début du livre où on met en place d'une certaine manière la situation globale. Esther est une reine juive intronisée après la destitution de Vashti. À la fin du chapitre 2, en 2:21 à 23, elle sauve le roi d'un complot avec le soutien de son père adoptif Mardoché, avec lequel, visiblement, elle garde des liens très forts. Jusque-là, Esther et Mardoché semblent bénéficier d'une situation privilégiée à la cour du roi perse. Le texte du chapitre 2 insiste notamment sur le fait que Mardoché, c'est toujours la même expression, est assis à la porte du roi. C'est-à-dire qu'il est fonctionnaire de la cour et il peut se promener de toute évidence comme il veut à l'intérieur du palais. Même si l'intégration d'Esther et de Mardoché au sein du système qui prévaut à la cour perse semble harmonieuse, déjà au chapitre 2, le texte massorétique laisse planer une zone d'ombre. La voilà. Donc Mardoché invite par deux fois sa fille adoptive à ne pas révéler son origine juive. Et il ne la révèle pas lui-même. Donc Esther n'avait révélé ni sa parenté, ni son peuple, comme Mardoché le lui avait commandé. Esther exécutait la parole de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Chapitre 2, verset 20. C'est chaque fois les traductions de la TOB que je cite. Ce faisant, le texte suggère que faire état d'une origine juive peut être dangereux, ou tout au moins constituer un handicap au sein de la cour impériale. Au chapitre 3, un problème dramatique survient, vous vous en souvenez aussi, Mardoché refuse l'ordre royal de se prosterner devant Haman, le nouveau premier ministre, et chapitre 3, verset 2, tous les serviteurs du roi présents à la porte royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman, comme le roi l'avait commandé à son sujet, mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi, présents à la porte royale, dirent alors à Mardoché « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ?» Il lui en parlait chaque jour, mais lui ne les écoutait pas. Alors ils informèrent Haman pour voir si les affirmations de Mardoché tiendraient. En effet, je souligne cette fin de verset, il leur avait révélé qu'il était juif. On a déjà un petit peu abordé cette question la dernière fois. En fait, derrière ce qui, à première vue, constitue un simple conflit entre deux membres influents de la cour, Mardoché a sauvé le roi, on apprend à la fin du chapitre 2, et Haman est honoré et élevé à une place quasiment royale en 3:1, eh bien, des problématiques visiblement plus importantes que ce conflit entre deux individus se profilent. Le refus de se prosterner devant Haman conduit Mardoché à faire savoir qu'il est juif. Le fait que, sous la pression des membres de la cour, Mardoché explique qu'il ne se conforme pas aux usages de l'Empire perse parce qu'il est juif, 3-4, soulève une question qui, au plan socio-historique, se posait de manière cruciale, notamment durant la période de la domination des empires hellénistiques. Et cette question, c'est toujours la même. À quelles conditions un juif peut-il s'intégrer au sein de l'administration de l'empire dominant ou participer aux institutions de l'empire? Et doit-il, pour faire ça, cacher son identité et puis renoncer à ses rites et à ses usages? De toute évidence, pour les auteurs de l'œuvre, le choix de s'intégrer sans faire connaître son origine constitue une voie problématique que les héros abandonnent assez vite. Mardoché, quand il refuse de se prosterner, et plus tard Esther. En réaction au refus de se prosterner, Haman fait promulguer un décret visant à exterminer tous les juifs de l'Empire. Il se rend auprès du roi et le convainc de faire proclamer un tel édit. L'édit est ensuite proclamé dans tout l'Empire par l'administration et la poste de l'Empire en question. Alors, par rapport au chapitre 2, à la fin du chapitre 3, la situation s'est totalement retournée pour Esther, Mardoché et les Juifs, qui sont en extrême danger. Là, c'est le schéma littéraire. Hein. Le chapitre 4, que nous allons lire, marque une phase importante de l'intrigue, parce que c'est à ce moment-là, ce dialogue, il y a un dialogue entre Esther et Mardoché, et ce dialogue aboutit à la décision de l'héroïne de prendre le risque d'aller plaider auprès du roi la cause de son peuple. En outre, ce chapitre éclaire la façon dont les rédacteurs ont construit le personnage d'Esther et soulève des problématiques fondamentales qui permettent de mieux comprendre quelles sont les valeurs qui sont mises en évidence, mises en avant par ce texte romanesque. Cet épisode débouche ensuite sur l'intervention d'Esther qui se présente auprès du roi, l'invite successivement à deux banquets avec Haman et finit par obtenir du roi la tête de ce personnage. C'est au chapitre 7. Alors, examinons ce chapitre 4, ce passage clé. On va le lire ensemble dans la traduction de la traduction œcuménique de la Bible. Vous verrez, je proposerai de la corriger à quelques endroits, mais pour l'instant, on le lit tel qu'il est traduit. Voilà, apprenant tout ce qui s'est passé, Mardoché déchira ses habits, il se revêtit d'un sac et de cendres, il sortit au milieu de la ville, il poussa un grand cri amer. Puis il alla jusque devant la porte royale, car revêtu d'un sac, personne ne pouvait franchir la porte royale. Or, en chaque province où l'ordonnance du roi et son décret étaient parvenus, c'était un grand deuil pour les Juifs. Jeûne, larmes, lamentations, sacs et cendres étaient le lit de beaucoup. Les filles d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant. La reine eut une crise de désespoir, puis elle envoya des vêtements pour que Mardoché s'habille et enlève son sac. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques du roi qu'il avait mis à sa disposition, et elle le manda vers Mardoché pour savoir ce qui se passait et pourquoi. Hatak sortit pour rencontrer Mardoché sur la place de la ville, qui était en face de la porte royale. Alors Mardoché lui révéla tout ce qui lui était arrivé et combien d'argent Haman avait proposé de compter pour le trésor du roi en échange de l'anéantissement des Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte du décret promulgué à Suse pour l'extermination, afin qu'il le montre à Esther, la mette au courant et lui commande d'aller près du roi, de lui demander grâce et de le supplier en face pour son peuple. Hatak vint mettre Esther au courant des paroles de Mardoché. Le texte, en fait, malheureusement, tient sur deux slides, donc je change. Je reviendrai en arrière tout à l'heure. Alors Esther manda Hatak vers Mardoché en lui disant « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces royales savent bien que quiconque homme ou femme va près du roi dans la cour intérieure sans être appelé, il n'y a pour lui qu'une loi, la mise à mort. Sauf si le roi lui tend le sceptre d'or, auquel cas il peut vivre. Quant à moi, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé à aller près du roi. On mit Mardoché au courant des paroles d'Esther. Alors, pour rétorquer à Esther, Mardoché dit: ne t'imagine pas qu'étant dans le palais, à la différence de tous les Juifs, tu en réchapperas. Car si en cette occasion tu persistes à te taire, soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit, tandis que toi et ta famille vous serez anéantis. Or, qui sait si c'était pour une occasion comme celle-ci que tu es arrivé à la royauté. Pour rétorquer à Mardoché, Esther dit: va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, ni jour, ni nuit. Moi de même, avec mes filles, je jeûnerai ainsi. Sur ce, en dépit de la loi, j'irai auprès du roi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'écarta, et il fit tout comme Esther le lui avait commandé. Alors je reviens en arrière. Oups, excusez-moi. Voilà. Pour que vous ayez le texte que je commente sous les yeux. La première partie du passage, donc les versets 1 à 3, décrit la réaction à l'extérieur du palais des Juifs qui apprennent la publication de l'édit. En tant que principal personnage juif à l'origine du drame, c'est d'abord Mardoché qui adopte une attitude publique de deuil, verset 1, laquelle l'oblige désormais à s'arrêter au seuil du palais, verset 2. On ne rentre pas habillé en sac dans le palais. Une réaction analogue à celle de Mardoché de la part de tous les Juifs de l'Empire est ensuite rapportée. Verset 3. Mardoché, à ce stade du récit, est au courant de tout. Par contraste, Esther n'est au courant de rien, puisqu'il lui apprendra tout au verset 7. Mardoché est hors du palais et Esther dedans. Ils sont désormais coupés l'un de l'autre. La figure d'Esther est encore pleinement dans le corset de la lourde administration perse, longuement mise en évidence au chapitre 1 et 3, 1 à 3, donc c'est un des passages qui développent longuement la lourdeur des procédures juridiques, du faste et de tout ce qui se déroule dans la cour perse. Donc celui qui lit le roman d'Esther est évidemment au courant de tout ça. La deuxième section du chapitre, les versets 4 à 16, rapporte un long dialogue à distance entre Esther, restée au palais, et Mardoché. Ce dialogue aboutit à la décision de la reine d'intervenir auprès du roi pour sauver son peuple. Ce dialogue est organisé de manière à montrer que la relation entre les deux protagonistes se dégage progressivement des médiations formelles assurées par les fonctionnaires de la cour pour aboutir à une relation très proche et personnelle qui conduira d'une certaine manière, enfin qui aboutira au fait que la reine s'implique personnellement pour son peuple. On va regarder comment ça fonctionne, comment fonctionne ce dialogue dans le texte massorétique, dans le texte hébreu. Le motif de la médiation entre l'intérieur et l'extérieur du palais permet au texte massorétique de souligner la lourdeur du fonctionnement de la cour perse et son caractère contraignant. Le texte construit le dialogue entre Esther et Mardoché de sorte à mettre en évidence une forte intervention des institutions. La reine semble d'abord complètement prisonnière du protocole de la cour perse avant de progressivement s'en libérer. Tout commence au verset 4, par une information transmise à la reine par l'ensemble de son entourage, donc les filles, c'est un terme qui veut dire simplement les jeunes filles, ce n'est pas les filles biologiques d'Esther, mais ses servantes, et les eunuques. Donc c'est ces personnages-là qui lui transmettent une information selon laquelle Mardoché est présent aux portes du palais, vêtu d'un sac et couvert de cendres. Ça, c'est une tenue classique de deuil. La communication entre les deux protagonistes pose d'emblée problème puisque Mardoché ne peut pas prendre directement l'initiative de la contacter. C'est en fait les membres de la cour, donc les jeunes filles et les eunuques qui informent Esther de ce qui est en train de se dérouler. De plus, pour le rédacteur massorétique, l'information donnée à Esther est de toute évidence incomplète et ne concerne que les manifestations extérieures de Mardochée, puisque les causes réelles de son attitude ne lui seront expliquées que plus tard. Entre les versets 5 et 8, à cette information sur l'attitude physique de son père adoptif, la reine réagit par des manifestations physiques de tremblement dont la signification est incertaine. La Tob traduit « crise de désespoir », mais en fait il s'agit d'une racine hébraïque qui ne permet pas de savoir si elles sont provoquées par la douleur ou la tristesse ou par la crainte. Il y a une espèce d'ambiguïté, on ne sait pas pourquoi elle réagit comme ça. S'ensuit tout un cérémonial où la reine commence par envoyer des vêtements à Mardochée. Le texte massorétique est un peu ambigu sur les implications de la démarche d'Esther. Le lecteur peut penser qu'Esther veut simplement parler avec Mardochée en envoyant des vêtements, comme ça elle l'oblige. Mais visiblement, le problème c'est qu'en lui envoyant des vêtements, elle l'obligerait d'une certaine manière à renoncer ou à renier sa condition d'endeuillé juif en le réintégrant à la cour. Et puis ça, ce n'est pas innocent, ce n'est pas juste une surinterprétation, parce que dans le livre d'Esther, les attributs vestimentaires marquent la position sociale des protagonistes, tout le temps. La royauté de Vashti et d'Esther est signalée par le port d'un diadème et le véritable rétablissement de Mardochée se fait par son habillage au chapitre 6. Le lecteur peut donc comprendre l'acte d'Esther comme une première tentative de rétablir Mardochée, mais aussi de préserver le voile sur la filiation juive d'Esther. Quoi qu'il en soit, le premier contact entre Esther et Mardochée se fait et échoue, en fait, par la médiation de vêtements. Ça se fait pas, quoi. Dans un deuxième temps, Esther envoie un eunuque nommé Attac, dont on précise qu'il est mis à sa disposition par le roi pour se rendre auprès de Mardochée et s'informer. L'insistance du texte massorétique sur cette médiation, dont la description prend deux versets, est significative. Mardochée révèle alors à l'eunuque le complot d'Aman. Selon le texte hébreu, il donne par ce truchement à Esther non seulement des informations confidentielles, comme la somme d'argent versée par Aman, en 4-7, ça normalement le public ne le sait pas. De toute évidence, Mardochée est un personnage bien informé. Et puis il lui dit aussi ce que tout le monde sait, ce qui est de notoriété publique, à savoir le décret d'extermination des Juifs, qui a été publié à Suse la citadelle. Pour terminer, il lui ordonne d'intervenir auprès du roi. Il s'agit là du dernier ordre qu'Esther reçoit de Mardochée, alors qu'elle suivait jusque-là, nous dit le texte là aussi, tout ce qu'il lui disait de faire, 2:20. Après, elle ne va plus jamais suivre textuellement ses ordres. La suite du texte. Dans la suite du texte, donc, la réponse de la reine passe à nouveau par le truchement de l'eunuque au verset 10. Dans sa réponse, la reine objecte à Mardochée qu'elle devrait prendre un risque mortel pour obéir aux instructions de Mardochée, l'invitant à aller plaider la cause de son peuple. Cette notice, en fait, joue un rôle clé dans la présentation du personnage d'Esther, puisqu'elle introduit deux enjeux dramatiques auxquels ce personnage va être confronté. Et à savoir, va devoir risquer sa vie pour sauver son peuple. Alors le risque en question s'explique par un interdit perse, d'abord, de se présenter auprès du roi sans avoir été préalablement convoqué. Le livre d'Esther insiste à nouveau sur le caractère ubuesque de la situation. Un édit universellement connu est censé prévoir la mort immédiate de tout contrevenant, y compris la reine elle-même. Dans le livre d'Esther, le motif de cet édit est intéressant dans la mesure où il montre que, comme l'avaient fait avant elle Vashti et Mardochée, la reine va devoir violé une règle de la cour avec les conséquences supposément dramatiques auxquelles elle s'expose. L'édit en question prévoit cependant, et heureusement, une exception, sauf si le roi lui tend le sceptre d'or. Mais le texte nuance immédiatement cette exception à la règle par la dernière remarque d'Esther qui précise qu'elle n'a pas été convoquée pour aller vers le roi depuis 30 jours. Alors, cette dernière remarque, évidemment, pose un regard assez sombre sur la situation d'Esther et sur les règles de la cour. C'est ainsi que toute reine qu'elle soit, elle est soumise au même principe que ceux régissant la condition des concubines du roi. Hein, selon le chapitre 2, verset 14, on apprend que toutes les concubines, ben, si on les oublie, elles restent tranquillement au harem, mais elles ne reviennent jamais vers le roi. Et puis, les 30 jours indiquent qu'une forte distance semble s'être établie au sein du couple royal, rendant en fait assez aléatoire à la fois une convocation spontanée et rapide de la reine, et puis même le fait que le sceptre d'or lui soit tendu. Ça, évidemment, quand on arrive là, on ne sait toujours pas. Hein. La rédaction du texte proto-massorétique, donc texte hébreu, ajoute à l'argumentation de la reine indiquant l'interdit de se présenter sans convocation une précision qui a l'air d'un détail, mais qui n'en est pas un. Par la cour intérieure. Hein, donc, il s'agit, on n'a pas le droit d'entrer par la cour intérieure. Ça, c'est présent que dans le texte hébreu, c'est absent du texte alpha. Et cette indication n'est pas sans enjeu, parce que ça semble tourner en dérision la règle en question. Pourquoi ? Bien parce que, sur la base de cette précision, on comprend que seuls ceux qui se trouvent à l'intérieur du palais sont soumis à cet édit. Dès lors, selon le texte massorétique toujours, si l'accès au roi est problématique pour Esther dans la mesure où elle vit dans la maison du roi, à l'intérieur du palais, et accède donc par la cour intérieure, ce n'est pas le cas pour tous ceux qui, comme Haman, résident à l'extérieur du palais. Il est alors logique qu'en 6.4, Haman ne semble rien risquer à se présenter au roi par la cour extérieure. Typiquement massorétique comme remarque, si vous voulez. Et ça, c'est explicitement mentionné dans le texte. Cette précision, si vous voulez, ces deux mots ajoutés dans le texte hébreu, souligne d'une part la condition de reclus d'Esther au palais, comme n'importe quelle concubine, donc elle doit attendre d'être convoquée auprès du roi, mais elle rappelle d'autre part l'étrangeté des règles protocolaires perses qui prévoient qu'au contraire des autres habitants de l'Empire, ceux du palais n'ont pas libre accès au roi. Finalement, associé à l'indication massorétique selon laquelle tous les peuples des provinces connaissent cette règle, la précision sur la cour intérieure montre à quel point l'Empire est présenté comme pointilleux, puisque tous sont informés d'une règle qui en fait ne concerne que ceux qui sont dans le palais. D'accord ? Dans le texte massorétique, le lecteur pourrait penser que la reine, en fait, elle pourrait attendre d'être convoquée. Son intervention n'étant pas urgente dans la mesure où le massacre des Juifs est planifié pour 11 mois plus tard. Or, dans le texte massorétique, personne n'envisage cette solution. On peut penser que les rédacteurs n'ont pas jugé nécessaire de remettre en question une telle option dans la mesure où, comme nous le verrons, pour Esther, le risque vital n'est pas uniquement lié à sa venue intempestive auprès du roi, mais réside surtout dans le fait d'avouer ou de dire qu'elle fait partie de ce peuple et de demander son salut. Dans la perspective du texte massorétique, l'objection d'Esther soulève en fait un faux problème, un peu comme ce qu'on a dans le récit de vocation de Moïse, par exemple, où à plusieurs reprises il dit « oui, je ne peux pas parce que je suis trop jeune », enfin, parce qu'il explique toutes sortes de raisons, hein. Thomas vous explique ça beaucoup mieux que moi, naturellement, mais enfin, c'est visiblement un motif assez classique. Ce qu'il faut ensuite remarquer, c'est que si au verset 10, Esther ordonne à l'eunuque Hatak d'aller vers Mardochée pour transmettre sa réponse, lorsque la transmission de celle-ci est mentionnée au verset 12, l'eunuque, pourtant si important précédemment, hein, donc on l'avait mentionné toute une série de fois au verset 5, 6 et 9, bah, tout d'un coup il disparaît au profit d'une formule impersonnelle, on mit Mardochée au courant. La suite du dialogue entre Esther et Mardoché va être rédigée comme si les deux protagonistes se trouvaient face à face. Des formules d'introduction formulées ayant pour rétorquer à X, Y, D, etc. Et puis des adresses en tu vont prendre la place des formulations indirectes qui caractérisaient le dialogue jusqu'au verset 10. Je pense que ce changement radical de formulation n'est pas non plus le fruit du hasard. Les rédacteurs du texte auraient très bien pu continuer à utiliser des formulations indirectes après le verset 11. Comme en plus c'est de leur plume, ils pouvaient quand même le faire. Pour résumer, les étapes du dialogue massorétique entre Esther et Mardoché sont articulées de la manière suivante. Alors, ça commence par des informations purement formelles sur Mardoché, à part les eunuques et les jeunes filles d'Esther, et elle réagit sur la forme. Ça, c'est le verset 4. Elle lui envoie des habits. Ensuite, deuxième temps, Esther envoie un ambassadeur officiel, un eunuque, pour en savoir plus. C'est à lui que Mardoché donne des informations détaillées sur la situation. Un document officiel, le décret, et des instructions lui sont transmises. Verset 10, Esther répond toujours par l'entremise d'Attaque, cet eunuque, que pour obéir, elle devrait agir à l'opposé du droit perse et donc risquer sa vie. Comme si cette réponse anticonstitutionnelle ne pouvait être transmise par un officiel perse, le texte massorétique dit simplement que cette réponse fut transmise à Mardoché. Verset 12. Le texte fait ensuite du rapport entre Esther et Mardoché un dialogue direct, formulé à la deuxième personne du singulier, sans que des médiations ne soient mentionnées. Voilà. Alors la médiation de la relation entre Esther et Mardoché par les fonctionnaires de la cour perse va donc diminuant, si vous voulez, au cours du chapitre, alors que la problématique soulevée va d'une question très formelle, l'habillage, à un dialogue presque testamentaire là, sur les risques à prendre et le sens à leur donner aux versets 13 et 14. Je crois que par cette habile construction littéraire, le rédacteur du texte montre que le dialogue entre Esther et Mardoché se libère progressivement des médiations formelles de la cour et que, dès lors, la reine va pouvoir écouter et résoudre les problèmes du peuple. C'est à ce moment du récit que la jeune reine perse devient ou redevient une femme juive en mesure de s'engager pour son peuple. Voilà. Maintenant, examinons, si vous voulez bien, les versets 13 à 14, l'argumentation de Mardoché. La réponse qu'adresse Mardoché à Esther constitue un des passages clés du livre, puisqu'il permet d'expliquer les raisons qui doivent pousser cette juive assimilée au sein de la cour perse à dévoiler son identité et s'impliquer au risque de sa vie pour le salut de son peuple. L'interprétation de ce passage n'est pas évidente, vous allez le voir. On a vu... On a vu qu'à partir de là, le dialogue entre Esther et Mardoché est rédigé comme si les deux protagonistes se trouvaient côte à côte. La présence de l'eunuque n'est plus mentionnée, les interventions des protagonistes étant alors introduites comme s'ils se trouvaient face à face. X dit pour répondre à Y. En outre, des adresses à la deuxième personne du singulier vont dès lors remplacer les formulations indirectes et les discours rapportés qu'on trouvait avant. Cette façon de décrire l'échange entre les deux protagonistes suggère qu'à ce moment du récit, le formalisme de la cour est abandonné au profit d'une relation directe. Dans le texte massorétique, l'argumentation de Mardoché s'ouvre par une affirmation qui exprime et dénonce ce que pourrait avoir été le point de vue d'Esther face à la situation qui se présente. « Ne pense pas en toi-même être sauvé dans la maison du roi, au contraire de tous les Juifs. » Un tel point de vue peut être perçu comme le reflet de celui de Juifs pleinement intégrés à la cour impériale et qui dès lors s'y sentiraient suffisamment protégés pour ne pas se sentir personnellement concernés par un édit frappant les Juifs en général. Le livre d'Esther fait ici apparaître l'espoir de protection que constitue la dissimulation de l'identité, qui avait marqué jusque-là le parcours d'Esther. Elle dit, qu'elle n'avait jamais fait état du fait qu'elle était juive. Et ça, ça apparaît évidemment sous un jour assez terrifiant, quoi. Masquer l'identité ne préserve qu'une seule privilégiée, alors que tous les autres juifs vont être massacrés. Cela dit, la raison pour laquelle Mardochée invite sa fille adoptive à ne pas adopter ce point de vue n'est pas évidente à comprendre. En effet, à ce stade de l'argument, le lecteur pourrait imaginer que la désolidarisation du destin de son peuple serait en mesure de sauver Esther, mais qu'une telle attitude est perçue comme, par exemple, moralement inacceptable. Il pourrait aussi imaginer que Mardochée prévient Esther qu'adopter une telle attitude ne lui permettra pas d'échapper à la mort. Dans ce cas, on peut soit penser que sa judaïté étant connue, l'édit d'Aman la frappera elle aussi, soit qu'Esther sera alors frappée par la providence ou par la vengeance des Juifs, ou je ne sais quelle autre solution. La question donc soulevée par le verset 13 n'est évidemment pas tranchée, et puis c'est la raison pour laquelle on attend juste après une explication. Hop, alors elle vient. Et cette explication, elle est en hébreu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la traduire. Cette explication, elle commence par un car. Malheureusement, cette formulation, la formulation hébraïque des paroles de Mardochée en 14a peuvent être comprises de trois manières différentes que je vais développer un petit peu. Il s'agit d'examiner ces trois possibilités afin de comprendre les raisons pour lesquelles, selon les rédacteurs proto-massorétiques, Mardochée met en garde Esther de ne pas penser être sauvée seule. Alors voilà la première solution. Donc, le texte hébreu qui se trouve à droite ne change pas du tout entre les trois slides qui vont suivre. C'est simplement la façon de le traduire qui change. Mais voilà. On va examiner ces trois solutions. La première interprétation envisageable de ce demi-verset est retenue par la majorité des traductions, pas toutes, mais la majorité. Elle suppose que Mardochée affirme que la délivrance des Juifs surviendra nécessairement et que si Esther ne se rend pas auprès du roi, elle mourra. C'est ce qu'il y a dans la Tobe. Car si tu te tais durant ce moment-ci, répit et délivrance se présenteront pour les Juifs d'un autre lieu et toi et la maison de ton père mourrez. À la possibilité envisagée qu'Esther se taise sont ajoutées deux affirmations qui en constituent les conséquences. Le salut viendra d'ailleurs, on ne sait pas d'où, et elle mourra ainsi que la maison de son père. Compris de la sorte, ce verset exprime la conviction de Mardochée que les Juifs seront sauvés quoi qu'il arrive. Comme ailleurs dans le texte massorétique, le passage reste allusif sur la question de l'action divine. Un point qui distingue le texte hébreu d'Esther du proto-Esther, mais suggère néanmoins que Dieu agit dans l'histoire. Dans le cadre de cette lecture du passage, on comprend que l'autre lieu d'où viendra répit et délivrance fait allusion à une forme de providence qui, par d'autres moyens d'action, qu'Esther sera supposée apporter le salut aux Juifs. Cette remarque n'implique ni qu'il soit nécessaire de comprendre le mot « l'autre lieu » comme un appellatif divin, des gens qui disent ça, ni même qu'il s'agisse de supposer que Mardochée fasse allusion à l'action d'un protagoniste qui se ferait, d'une certaine manière, permettrait d'être celui qui agit. Mais, lu de cette manière, la suite du passage, qui enchaîne en affirmant le décès d'Esther et de la maison de son père, pose plusieurs problèmes logiques, me semble-t-il. L'argument développé explique mal pourquoi, si les Juifs sont destinés à être sauvés, quoi qu'il advienne, Esther devrait nécessairement prendre le risque de se présenter sans être convoquée devant le roi. De plus, la mort d'Esther et de la maison de son père ne constitue ni une conséquence nécessaire, ni vraiment logique du salut des Juifs. Pourquoi Esther ne pourrait-elle pas survivre avec tout le monde, quoi ? On pourrait certes supposer que Mardochée laisse entendre que les Juifs se vengeraient d'elle, ou que la Providence viendrait sanctionner la mort, sanctionner de mort le refus d'Esther. Cependant, cette opinion pose une difficulté logique, là aussi difficilement surmontable à mon sens, à cause de la mention non pas seulement de la mort d'Esther, mais de celle de la maison de son père. Hein, la Tob, elle a traduit par famille, mais en fait, c'est la maison de ton père. En effet, dans le texte massorétique, cette mention fait nécessairement référence à Mardoché lui-même, dont elle est la fille adoptive. L'autre, il est mort, de toute façon, donc c'est cuit pour lui. Hein. finalement, si les débuts du discours de Mardoché, le début du discours de Mardoché est aussi affirmatif à propos du destin des Juifs, on ne comprend pas pourquoi il n'enchaîne pas en affirmant qu'Esther a atteint la royauté dans le but d'accomplir la mission qu'il lui a confiée, mais qu'il termine son discours en réalité par une hypothèse. Hein, le dernier bout de phrase, qui sait si c'est pour un moment comme celui-ci que tu as atteint la royauté, tout le monde est d'accord de dire que c'est une question. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude. Selon la fin du verset 14, Mardoché n'est donc pas certain que ce qu'il demande à Esther sera un succès. Impression confirmée d'ailleurs par l'acceptation fataliste d'Esther en 4.16, « J'irai et si je dois mourir, je mourrai ». Il ressort de ces remarques que l'interprétation du verset 14a, donc la première partie, comme une déclaration de la certitude du salut divin, assortie de l'affirmation qu'Esther sera sanctionnée par un dieu vengeur ou par les juifs au cas où elle refuserait d'agir, ne me semble pas vraiment cohérent avec l'argumentation globale de ces deux versets. En outre, la présence d'une telle affirmation sur les lèvres de Mardoché ne s'accorde pas avec la logique d'ensemble d'une œuvre qui ne présente pas l'intervention divine dans l'histoire comme quelque chose qui, pour les protagonistes, est aisément prévisible, mais plutôt comme quelque chose qu'il s'agit de reconnaître derrière les événements relatés. Visiblement, on n'est pas tellement sûr. Même si cette façon de lire le passage a longtemps été majoritaire, elle doit, à mon sens, être remise en question. Alors, il y a deux autres solutions de lecture. La première possibilité, je ne vous cache pas, je ne la trouve pas absolument 100% convaincante, mais enfin, constitue, disons, l'autre façon d'interpréter le contenu du texte consiste à comprendre qu'au cas où Esther n'interviendrait pas, Mardoché formule deux vœux différents, que la délivrance vienne d'ailleurs, premier vœu, et d'autre part, qu'Esther meure avec sa famille. On ne change pas le texte hébreu, hein, mais on peut comprendre ça comme ça, car si tu te tais durant ce moment-ci, que répit et délivrance se présentent pour les Juifs d'un autre lieu, et toi et la maison de ton père, que vous mouriez. D'un point de vue linguistique, cette interprétation du texte est tout à fait envisageable. En effet, les deux verbes utilisés dans ce passage sont donc « se présenter » et « mourir » sont à la conjugaison de type « ictol ». Or, c'est une conjugaison qui peut exprimer, à part l'indicatif, le jussif. Donc, une forme de souhait, une forme de vœu. Puis ça ne change pas nécessairement la forme hébraïque. Lu de cette manière, le premier vœu formulé par Mardoché doit être compris comme un appel au secours, presque un cri de désespoir. Si Esther n'intervient pas, le dernier espoir repose sur un improbable soutien providentiel venu d'on ne sait pas où. Et ce premier vœu est complété ou serait complété par une deuxième sentence volitive qui tient de la malédiction puisqu'elle exprime le souhait que la reine participe au destin probablement tragique de sa famille et qu'elle soit donc détruite au même titre qu'elle. Vous comprenez la nuance, hein ? Selon cette interprétation, c'est évidemment bien à la maison de Mardoché que le texte fait référence en parlant de la maison de ton père. Cependant, le vœu ne porte pas sur la mort de cette maison, mais sur le fait qu'Esther meure avec elle. Après avoir proféré une sorte de cri de désespoir, Mardoché maudirait sa fille adoptive. Alors, cette lecture s'inscrit logiquement dans l'argumentation d'ensemble du livre d'Esther, dont un des enjeux majeurs est justement de montrer que les Juifs, qu'ils soient ou non intégrés au sein des instances du pouvoir, doivent être solidaires de leur groupe. La reine est mise devant un vrai choix. Va-t-elle être solidaire des siens ou va-t-elle continuer à se cacher derrière son apparence de reine perse ? Dans le premier cas, elle prendrait un risque énorme, mais qui sait si c'est pour ça qu'elle est là. Dans le second cas, elle préférerait la quiétude de celle qui refuse de voir la mort de son ancienne famille. Elle se trouverait alors dans le même camp, d'une certaine manière, que Haman. D'où la malédiction de Mardoché, ou le vœu qu'elle meure. Hein. Voilà. Et puis l'hébreu étant une langue assez compliquée, on va envisager une troisième solution, une troisième possibilité d'interpréter le même passage, qu'on trouve également dans la littérature, c'est un peu la lecture en vogue aujourd'hui. Celle, à mon avis, c'est la plus vraisemblable. Il s'agit de comprendre qu'après que le silence d'Esther ait été envisagé, Mardoché pose une question rhétorique. Le salut viendra-t-il d'ailleurs ? Puis débouche sur une affirmation, la mort probable d'Esther. Donc la traduction, car si tu te tais durant ce moment-ci, répit et délivrance se présenteront-ils pour les Juifs d'un autre lieu ? Toi et la maison de ton père mourrez. Cette interprétation du texte massorétique est également tout à fait possible d'un point de vue linguistique. En effet, les phrases interrogatives apparaissent en hébreu, spécialement en hébreu tardif, mais le texte, enfin en hébreu biblique tardif, donc, sans particule interrogative. Alors ça, j'ai toute une série d'exemples pour démontrer ça. L'interrogation s'y exprime par l'intonation de la voix au moment de la lecture. Hein, c'est comme en français. Si je dis vous irez au Collège de France écouter Maquis, vous comprenez que c'est un ordre ou une affirmation. Et si je vous dis vous irez au Collège de France écouter Maquis, bien vous comprenez que c'est une question. Il y a le même phénomène. Cette question rhétorique implique évidemment que Mardoché suggère qu'il est très peu probable que quelqu'un intervienne à la place d'Esther. Il ajoute en outre à cette question l'affirmation que dans ce cas, Esther, comme toute la maison de son père, ne saurait en réchapper. Cette affirmation enchaîne logiquement avec le début du verset, puisque comme Esther est le seul espoir de son peuple, en tout cas le principal, sans son intervention, les Juifs subiront probablement le décret d'Haman. Mardoché et sa maison vont donc mourir, et Esther elle-même, en tant que juive, ne pourra en réchapper. Ça, c'est l'aspect novateur de l'affirmation, si j'ose dire. Mardoché explique donc que l'espoir de salut personnel qu'Esther pourrait entretenir, au verset 13, est en fait absurde, puisque sans son intervention, aucun autre sauveur ne surviendra, probablement, et qu'elle sera aspirée par le destin tragique de son peuple. L'argument est en parfaite cohérence, cette fois, avec le déroulement général du livre d'Esther, et le quart explicatif qui introduit le verset 14 est parfaitement bien utilisé. Pour Esther, l'inaction n'est pas une option, car étant juive elle-même, elle n'échapperait pas à la mort. Rappelons ici qu'une fois que Mardoché a fait connaître son identité, il a du même coup indirectement dévoilé aux membres de la cour celle d'Esther. Alors, regardons la logique du récit. Dans la logique du récit, le roi, au chapitre 2, 21 à 23, donc à la fin du chapitre 2, et le personnel d'Esther, ceux qui connaissent Esther, savent qu'elle est proche de Mardoché. Hein? Cette lecture du passage a quelque chose... Enfin, donc, c'est quand même de notoriété publique, le lien entre Mardoché et Esther. Au chapitre 2, il n'y a aucun problème à ce qu'elle cache son identité, tant que Mardoché fait de même. C'est au moment où il la dévoile que, d'une certaine manière, celle d'Esther est apparemment connue. C'est une lecture du passage qui a quelque chose de dramatique, évidemment, puisque même en tant que reine pleinement intégrée au sein de la cour perse, Esther ne saurait échapper seule à son sort funeste. Selon cette compréhension du verset, elle est donc contrainte à agir, c'est d'autant plus qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Alors la fin du verset 14, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as atteint la royauté, formule une hypothèse visant à achever de convaincre Esther d'intervenir en suggérant que la place qu'elle occupe au sein de la cour pourrait servir à sauver les Juifs. L'interrogation « qui sait ?» introduit une hypothèse et un espoir dont l'issue n'est cependant pas certaine. Là aussi, on peut regarder l'expression « qui sait » en hébreu est une expression qui exprime par définition l'incertitude. Jamais sûr. Il y a un exemple en 2 Samuel 12, lorsque David indique qu'il avait jeûné dans l'espoir, qui sait, parce qu'il dit qui sait si son fils sera sauvé. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est qu'après coup que l'on peut savoir si une action mise en place après qu'un protagoniste ait dit qui sait si va être couronnée de succès et pourra donc être tenue pour pertinente. En tout état de cause, la suite du livre montrera que l'hypothèse émise par Mardochée, que c'est pour un temps comme celui-ci qu'Esther est devenue reine, s'avérera exacte. Dès lors, Mardochée fera figure d'interprète sage et astucieux des temps, hein, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Pour ce problème de traduction, qui n'est pas extrêmement, évidemment, j'ai développé un petit peu, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, mais enfin, c'était l'occasion de placer un petit cours d'hébreu. Maintenant, on va revenir, on va regarder la fin de ce chapitre, les versets 15 à 17, la réponse d'Esther, hein, donc, qui montre qu'elle accepte le risque de risquer sa vie. Si je dois mourir, je mourrai, afin de porter secours à son peuple, 16b, et devient ce faisant un personnage qui prend en main son destin, alors qu'elle se conformait jusqu'alors aux instructions des hommes qui l'entouraient. Or ça, c'est frappant. Au chapitre 2, à trois reprises, on dit qu'elle fait ce que les autres lui disent de faire. Hein, ça peut être l'eunuque ou Mardochée, mais c'est chaque fois comme ça qu'elle est présentée. Ou bien elle accomplit les usages de la cour. Avant de se rendre auprès du roi, Esther ordonne cependant un jeûne de 3 jours qui concerne tous les juifs se trouvant à Suse et auquel elle participe ainsi que ses jeunes filles. Le personnage d'Esther organise une première cérémonie destinée aux membres de son peuple dont désormais elle se solidarise. Au plan de l'organisation globale du livre, cette mention crée un contraste entre la situation de ceux qui bénéficient d'une bonne place au sein de l'Empire et les Juifs désormais, et les Juifs d'autre part menacés d'extermination. En effet, dans le livre d'Esther, des banquets, il y en a tout le temps, et ils célèbrent les grandes étapes de l'évolution du récit et soulignent la gloire et le succès des protagonistes. Les banquets royaux, enfin ça on a vu. Et puis évidemment, le jeûne, par contraste, ben, c'est le malheur. Hein. D'autre part, la date à laquelle le texte massorétique situe le jeûne organisé par Esther est porteur de sens. Parce que les notices chronologiques du livre d'Esther en hébreu situent l'émission de l'édit d'Aman le 13 Nissan, Esther 3, 12 à 13. Et Mardochée réagit juste après, immédiatement en fait, en 4-1. Donc, les événements du chapitre 4 se déroulent le même jour. Enfin, disons, en tout cas, il y a des notices chronologiques quand le temps change, mais tout là, par contre, il n'y en a pas. Donc, évidemment, on comprend que c'est la même journée. Donc, le jeûne d'Esther de 3 jours, il se déroule du 13 au 15 Nissan. Et ça, je ne sais pas si vous savez, mais c'est exactement la période de Pâques, de la Pâque juive. Hein ? À savoir le moment durant lequel, normalement, on devrait manger l'agneau pascal. Pour un lecteur juif, ces indications chronologiques sont immédiatement compréhensibles et l'allusion à Pâques est évidente. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toute une série de textes rabbiniques. Tout le monde a vu dans la littérature hébraïque que ce jeûne d'Esther se déroule à Pâques. Hein? En faisant de la Pâque de la 12e année d'Achvéroch une période de jeûne, le rédacteur dramatise la situation. Il insiste sur le côté absolument pathétique de la situation. Ce qui se joue ici, c'est l'identité et l'existence même du judaïsme. La commémoration du salut lié à la fête de Pâques se transforme, l'année de cet édit, en un rite de deuil et de jeûne. L'enjeu de ce qui se joue ici d'un point de vue rituel et religieux est donc fondamental. Voyez pourquoi on peut dire, difficilement soutenir que le texte massorétique, malgré le fait qu'il ne mentionne pas l'action, explicitement l'action de Dieu, il fait quand même, c'est plein d'allusions à des rites et à du religieux, si j'ose dire. Il est en outre intéressant de constater que la formulation de ce jeûne n'est pas clairement explicite, la fonction de ce jeûne, excusez-moi, n'est pas explicitement mentionnée, et qu'elle demande simplement jeûner pour moi. Alors pourquoi choisir le jeûne ? Ces exégètes se posent de ces questions. Mais enfin, le choix d'un jeûne comme rite préliminaire à la prise d'un risque vital est particulièrement judicieux. En effet, cette pratique à succès du judaïsme de l'époque hellénistique prend pleinement sens dans la mesure où elle est profondément liée à l'incertitude inhérente à la condition humaine face au drame de l'existence. On peut jeûner dans deux circonstances. D'abord, c'est associé à la perte et au deuil. Donc ça, c'est une situation de drame sans issue. Hein. Et puis, le jeûne a une autre fonction. Ça peut être un geste d'attente de secours divin. Hein, une sorte de rite, une sorte de geste acte de prière. Hein. Mais les deux choses sont possibles. Au plan littéraire, donc le jeûne a trois fonctions. Il contraste avec les banquets, il fait allusion à Pâques, et c'est un rite d'incertitude. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas choisi au hasard. Hein. Voilà. Bon. Permettez-moi quelques conclusions à propos du chapitre 4, version hébraïque, donc version massorétique, celle qu'on a lue maintenant. Le personnage d'Esther se transforme radicalement au cours de ce chapitre. Jusque-là, elle est présentée comme une charmante jeune femme, mais qui subit en grande partie le cours des événements. Elle est conduite à la cour, elle se conforme aux usages de la cour, tout ça, elle suit le conseil de son entourage au chapitre 2. Elle gagne la faveur de tout le monde, certes, mais et elle bénéficie d'une situation privilégiée. Ça, c'est avant le chapitre 4. Pourtant, au début du chapitre 4, on comprend que dans sa prison, elle dorée, elle ignore tout ce qui se produit à l'extérieur. Et elle ne voit pas ce qui est en train de se produire pour les Juifs de l'Empire. Durant le chapitre 4, elle va se dégager progressivement des lourdes règles et contraintes, ainsi que de l'aveuglement qui caractérise la vie à la cour perse. C'est évidemment la façon dont le rédacteur présente le personnage. Hein. Dès lors, elle renoue progressivement avec la condition des Juifs de l'Empire, en apprenant d'abord ce qui est en train de se produire, puis en finissant par se solidariser pleinement de la cause de son peuple. Dans le récit, ce n'est qu'alors qu'elle va prendre en main son destin et celui de son peuple. Elle institue d'abord un jeûne communautaire auquel elle participe. Puis, au cours des chapitres 5 et 7, elle met en place une procédure assez astucieuse qui permet d'obtenir la condamnation à Mans, les deux banquets d'Esther. Personne n'est là pour la conseiller sur les modalités à appliquer. C'est elle qui fait désormais figure d'héroïne dans le récit. Alors qu'en 4.4, elle ignorait ce que tout le monde savait, au chapitre 5, la situation s'inverse totalement, puisque même le lecteur ignore ce qu'elle cherche à faire avec cette histoire de deux banquets. Elle l'invite une deuxième fois, on se dit, mais on ne comprend pas. Donc il y a vraiment un jeu littéraire là-dessus. Hein. De toute évidence, dans ce récit, comme dans la société dans laquelle il a été produit, vous voyez, il y a un rôle important qui est ici attribué à la femme, qui n'est pas simplement une épouse dépendante, pour dire ça un peu brièvement. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si au IIe siècle avant notre ère, il y a plusieurs textes du judaïsme qui mettent en scène des héroïnes, et non des héros, hein, Judith, etc. Donc et le cas d'Esther est aussi un cas intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, la façon dont Mardoché parvient à convaincre Esther d'intervenir invite à plusieurs remarques. Mardoché ne traite pas Esther comme une marionnette qu'il manipulerait en lui donnant des instructions précises, mais il l'aborde comme un personnage libre qu'il s'agit de convaincre. Il développe dès lors une véritable stratégie d'argumentation en vue de la convaincre. Il commence par lui révéler toute la situation, versets 7 à 8. Il répond à ces objections au verset 11 en mettant en lumière les enjeux du choix qu'elle a à faire. Ça, c'est les versets 13 à 14 sur lesquels je me suis longuement arrêté. Il indique notamment qu'il y a au-dessus des lois et des usages qui prévalent dans l'Empire, il sous-entend en tout cas qu'il y a des valeurs supérieures, en particulier la solidarité avec sa famille et son peuple, qui peuvent justifier de violer les règles sociales et de s'opposer aux puissants. Alors, sur un plan socio-historique, ça c'est le récit si vous voulez, hein. Maintenant sur un plan socio-historique, la situation décrite où Esther est tiraillée entre sa confortable situation de juive assimilée et cachée dans la cour du roi perse et l'appel à révéler son identité et à risquer sa vie, fait penser à la situation des juifs impliqués dans des instances impériales et qui, alors moi je situe ça à l'époque maccabéenne, mais selon la datation, bah évidemment, pouvoir imaginer d'autres contextes, bah à l'époque maccabéenne, ils doivent choisir leur camp au moment où un conflit extrêmement dur se produit entre le judaïsme, entre guillemets, traditionnel et le monde hellénistique. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où c'est plus possible de surfer, de jouer sur les deux tableaux. Et visiblement, le récit d'Esther met en scène une situation analogue. Donc on peut penser que les rédacteurs d'Esther, ben au fond, ils adressent d'une certaine manière un message probablement à des gens qui sont dans une situation de ce type-là. Hein? Donc, moi, je pense que le texte massorétique d'Esther s'adresse à des juifs assimilés, si vous voulez. Hein? Bon. Dernier point, mais c'est avant que je dépasserai, je vous avertis tout de suite. Hein, donc, on m'a dit que je pouvais, donc je ne vais pas trop, vous inquiétez pas. Quant au thème de l'action, il y a encore un dernier point, c'est la question de l'action divine. Le texte massorétique reste assez allusif. Au cours de ce passage, les protagonistes ne sont pas mis en scène comme des individus certains que Dieu les sauvera de la situation auquel ils font face. Au contraire, ils sont confrontés à l'incertitude de la condition humaine, en ne sachant pas si la délivrance adviendra. Mais s'il est vrai que le jeûne des Juifs et les lamentations qui l'accompagnent peuvent viser à implorer la protection divine, le sens de ces rituels reste incertain, puisqu'ils peuvent aussi servir à affronter un drame ou un deuil inéluctable et sans issue. En outre, l'argumentation de Mardoché n'affirme pas que Dieu protégera son peuple, mais quoi qu'il advienne, mais témoigne au plus de l'espoir que l'avènement d'Esther à la royauté puisse contribuer à l'émergence d'un salut qui, d'une part, n'est jamais certain et, d'autre part, ne dispense ni de l'action ni du risque. Voilà. Alors, on en a terminé provisoirement avec ce texte massorétique qu'on reprendra la prochaine fois avec un autre chapitre, mais je vous propose de jeter un coup d'œil à la question du proto-Esther. On a vu lors de la première leçon que le texte biblique d'Esther présente la particularité de nous être parvenu sur trois recensions. Et puis, grosso modo, on aurait, selon la reconstitution que j'ai tenté de défendre, un proto-Esther, un texte pré-massorétique qui aurait été retravaillé pour devenir le texte qu'on vient de lire. Hein. Donc il y a un rédacteur qui retravaille un texte de base pour en faire ce qu'on a lu aujourd'hui. D'accord ? Ce texte aurait été traduit en grec, ça devient le texte de la Septante, on y aurait ajouté des additions, mais parallèlement, le proto-Esther hébreu aurait été lui-même traduit en grec. On lui aurait ajouté les additions, et ce texte-là, on l'a. Donc on en dispose. Donc, si vous voulez, il est possible à partir de là de reconstituer ça. C'est-à-dire la version grecque sur laquelle on s'est basé pour traduire le texte alpha dans les parties où il y a des parallèles avec le texte massorétique. Donc vous comprenez bien, le texte massorétique aurait été d'une certaine manière une réécriture ou une re-rédaction d'un texte plus ancien auquel on a indirectement accès par cette traduction en grec. Voilà. Il y aurait donc eu un rédacteur qui aurait retravaillé à partir d'une base plus ancienne et plus courte. Alors voici pour le chapitre 4, en exclusivité aujourd'hui, le texte alpha. Alors il tient sur un seul slide, donc il est plus court que le texte massorétique. On va juste le lire et puis ensuite je ferai trois mots de commentaire, vous inquiétez pas, ça c'est bientôt fini. Mardochée apprit tout ce qui s'était produit. La ville de Suse était bouleversée par ce qui s'était produit et tous les Juifs menaient un deuil grand et cruel dans toute la ville. Mardochée étant allé dans sa maison, enleva ses vêtements et revêtit un sac, puis, recouvert de cendres, il sortit jusqu'à la cour extérieure et il s'y tint, car on ne pouvait pas entrer dans le palais royal en sac. Il appela un eunuque et l'envoya vers Esther. Et la reine dit, « Enlevez-lui son sac et faites-le entrer. » Cependant, il ne le voulut pas et dit, « Ainsi allez-vous lui parler, ne répugne pas à entrer chez le roi et à le charmer pour moi et le peuple. » Il l'informa aussi de la douleur d'Israël. Elle lui envoya dire en ces termes, « Toi, tu sais comme tout le monde que quiconque entre chez le roi sans convocation et à qui il ne tend pas son sceptre d'or est passible de mort. » Notez, je vous avais dit que ce n'était pas par la cour intérieure, hein. Pas dit n'importe quoi. Or, moi, je n'ai pas été appelé auprès de lui depuis 30 jours. Alors, comment entrerai-je maintenant sans convocation ? Et Mardochée lui envoya dire, « Si tu négliges ton peuple en ne lui venant pas en aide, alors c'est Dieu qui sera pour eux aide et salut. Mais toi et la maison de ton père seraient détruits. Qui sait si tu as régné pour ce moment ?» La reine lui fit dire, « Proclamez un culte et priez avec ferveur, et moi et mes jeunes filles ferons de même. » Puis j'irai vers le roi sans convocation, même si je dois mourir. Et Mardochée fit ainsi. Bon, je ne vais pas aller en détail, mais on peut remarquer quand même deux, trois petites choses rapidement. On peut remarquer qu'il y a toute une série de thèmes très importants dans la logique du texte massorétique, donc dans la logique du texte hébreu, qui sont absents. Ce qui signifie qu'ils ont été rajoutés par les rédacteurs massorétiques, évidemment. Attaque, l'eunuque est absent. Il y a moins d'aller-retour entre la reine et Mardochée. C'est Mardochée qui prend l'initiative de contacter Esther. Elle lui envoie des habits, il refuse et lui donne directement des instructions. Si vous voulez, tout l'épisode avec les informations données par Mardochée à la reine au travers d'attaque, tout ça, ça manque. Dans le proto-Esther, la reine n'est pas, en fait, coincée, ignorante et peureuse à la cour. Elle n'a même pas caché le fait qu'elle est juive. Alors ça, on peut regarder au chapitre 2 du texte alpha, il n'y a pas cette idée qu'on cache le fait d'être juif. Cela permet de voir que cette idée de judaïsme caché à la cour et qu'il faut dévoiler est en fait un thème que les rédacteurs du texte massorétique ont introduit, mais sur laquelle le texte antérieur n'insistait pas. D'autre part, les lourdeurs de la cour perse, sur lequel le texte hébreu insistait, est moins développé, il manque, on l'a vu, attaque, les eunuques et les jeunes filles qui font l'intermédiaire, qui disent à Esther que Mardochée est devant la porte. Et puis dans la phrase, « Toi, tu sais, comme tout le monde, que quiconque entre chez le roi sans convocation et à qui il ne tend pas son sceptre d'or est passible de mort », on ne mentionne pas l'histoire de l'entrée par la cour intérieure, qui était assez fortement ironique, encore plus ironique que là. Au lieu de parler de jeûne, le texte alpha parle de culte et de prière. Le motif du jeûne, dont on a vu l'importance dans le texte massorétique, semble visiblement avoir constitué une adjonction des rédacteurs. Hein. Quant à la mention explicite de Dieu, elle était présente dans le texte alpha, elle a été supprimée, ou en tout cas masquée. Le côté explicite a été masqué, comme partout ailleurs, d'ailleurs, par les rédacteurs massorétiques. Le but, ce voile volontaire posé sur la rédaction massorétique, sur l'action divine, répond à une volonté idéologique bien plus subtile qu'une simple tentative d'extirper les mentions de Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, c'est parce que les rédacteurs du texte massorétique qui voulaient, comme on lit le texte d'Esther à Pourim, et puis qu'à Pourim tout le monde boit, on avait peur qu'on commence à blasphémer le nom de Dieu. Mais ça, je pense que ce n'est pas une explication qui tient véritablement la route. En fait, l'action divine est suggérée par l'ensemble du récit hébraïque. L'intronisation, tout est tout fait qu'on a l'impression que Dieu, d'une certaine manière, agit par derrière ou intervient dans l'histoire, ou en tout cas qu'il y a des éléments comme ça. En tout cas, on nous invite à réfléchir là-dessus, et c'est ça la subtilité littéraire, si vous voulez. Et cette subtilité littéraire, elle se retrouve dans d'autres textes bibliques, et notamment le cycle de Joseph. Dans le cycle de Joseph, c'est Genèse 37 à 50, on a toujours remarqué, il y a très très peu de mentions explicites de l'action de Dieu. Mais à la fin du cycle, au chapitre 45, bon, tout est bien qui finit bien, Joseph affirme à ses frères, mais que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit amené en Égypte et puis qu'il y devienne grand vizir, si vous voulez. Donc, on donne la clé d'interprétation après coup. Et c'est beaucoup plus astucieux que de dire explicitement les choses, si vous voulez. Donc, visiblement, il y a des milieux qui rédigent et qui estiment qu'il est d'une certaine manière plus convaincant de formuler les choses de manière allusive, de mentionner l'action divine de manière allusive et non pas explicite. Et je pense que c'est ce que font les rédacteurs du texte massorétique. Je vous signale juste en passant, pour terminer, que vous vous demandez pourtant certainement pourquoi l'histoire de toi et la maison de ton père, il n'y a pas de problème dans le texte alpha, parce qu'en fait, Mardochée n'est pas le père adoptif dans le texte alpha. Donc évidemment, il n'y a pas le problème, qui est en fait un problème qui est spécifiquement massorétique. Donc le traducteur grec a compris, probablement, a réinterprété le texte, un texte hébreu probablement assez similaire à ce qu'on a de cette manière-là, mais ça ne pose pas de problème dans la logique du texte alpha, ça pose un problème seulement dans la logique du texte massorétique. Voilà, le proto-Esther est donc moins critique vis-à-vis de l'Empire, la question de l'intégration des Juifs au sein d'un empire étranger est moins problématique. Il y a simplement, dans le texte alpha, des personnages néfastes, comme ce personnage de Haman, mais ce n'est pas le système qui est problématique, alors que dans le texte massorétique, c'est vraiment le système qui est problématique, le système de l'Empire. Le proto-Esther dramatise moins les épisodes, il est, à mon avis, moins subtil, disons d'une certaine manière, sur la question de la réflexion à propos de l'action divine dans l'histoire. Voilà, merci de votre attention.